La Méridienne.
Allez, tout de suite, on retrouve le prof Patrick dans la rubrique Nuances du Monde. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de l'audimat parce que mes sujets faisaient souvent fuir les auditeurs. Donc, alors là, ça va accrocher fort, messieurs, dames, nous allons parler de pornographie.
Aïe, 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 un mercredi midi.
Exactement.
Allons-y.
Vous pouvez laisser les enfants à côté, ça ne sera pas carré blanc, comme on disait il y a 70 ans de ça. Carré blanc, ça voulait dire que ce n'était pas pour les enfants.
Ah, en fait, j'avais pas la référence.
Non, bah, tu n'étais pas né.
Il y avait les petits symboles interdits moins de 18 en bas de la télé.
Alors, il y a quelques jours, le Haut Conseil à l'égalité a publié un rapport sur la porno-criminalité, qui s'intitule « Porno, l'enfer du décor ». Pas l'envers, l'enfer. Et en dessous, il y avait marqué « Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ». Donc, ce rapport décrit des pratiques souvent très violentes de l'industrie pornographique dans des termes assez durs, puisqu'il présente l'industrie pornographique comme foncièrement illégale dans ses pratiques, des contrats de travail illégaux, des séquences illégales de violences physiques et sexuelles, des discours pornographiques de provocation à la haine misogyne, raciste et LGBT-phobe, une pornographie illégale parce qu'elle diffuse et facilite la pédocriminalité, elle méprise la protection des mineurs, etc. etc. Donc un rapport très dur sur l'industrie pornographique. Alors disons-le tout de suite, c'est un rapport qui est issu de travaux très sérieux, hein, d'accord ? Ça a pris 6 mois, ils ont auditionné de nombreuses personnes, dont les victimes de l'affaire dite du French Bukkake. Je mettrai un lien, c'est une affaire absolument terrible, de violence incroyable sur des femmes, sous prétexte de réalisation de films porno. Ce rapport constitue donc une critique dévastatrice de l'industrie pornographique. Une critique qui s'inscrit dans une remise en cause internationale de cette industrie. Je mettrai en lien, par exemple, un article qui évoque un documentaire sur Netflix que j'ai vu et qui est très bien, qui est consacré au site Pornhub, le plus gros site au monde à l'époque, et à ses nombreux soucis judiciaires. Donc, un excellent documentaire, allez le voir sur Netflix, je mettrai un lien. Donc, c'est une remise en cause salutaire. D'accord ? Mais, parce qu'il faut bien qu'il y ait un mais. Mais ce rapport semble vouloir aller plus loin que ça. Il est construit uniquement à charge. Par exemple, il ne donne pas la parole du tout aux acteurs et aux actrices de l'industrie pornographique, ce qui n'était pas le cas du documentaire que j'ai évoqué, qui donnait largement la parole aux actrices de l'industrie. Ce rapport semble vouloir non pas lutter contre les excès ou les dérapages illégaux de l'industrie pornographique, mais il semble vouloir constituer une vraie déclaration de guerre contre l'industrie en tant que telle, pornographique, et remettre en cause son droit à exister à cette industrie. Alors, pour y voir plus clair, je vais reprendre largement l'analyse qu'en a fait un juriste qui s'appelle Daniel Borio, qui est maître de conférence à l'université Paris-Nanterre, et qui l'a fait dans un article du site AOC Média que je mettrai en lien. Daniel Borio commence déjà en pointant l'absence de définition précise de la notion de violence pornographique, qui est problématique, hein, parce que en droit, il faut préciser, il faut définir précisément les termes. Et si on ne précise pas, eh bien, comment on va en faire un délit d'incitation à une infraction pénale s'il n'y a pas une définition précise ? Bon, d'un point de départ, de toute façon, quelque part, on pourrait dire que ce rapport, il pose la question, vaste question, une question réelle, du lien entre les représentations des actes sexuels que l'industrie pornographique propose et les comportements de violence sexuelle qui sont constatés dans la vie. Est-ce qu'il y a un lien ? C'est vraiment une question importante. Le problème, c'est que le rapport, il pose cette question et il apporte la réponse aussi sec. Et il dit, oui, il y a un lien de causalité directe. La pornographie est à l'origine des violences sexuelles. Et donc ça, c'est un petit problème parce qu'en fait, on peut utiliser cette hypothèse comme... cette affirmation comme une hypothèse de départ, mais il faut, dans un rapport officiel, apporter des éléments scientifiques à l'appui. Et étonnamment, ce rapport est dépourvu de bibliographie institutionnelle, références scientifiques. C'est étonnant parce qu'en fait, il y a eu une multitude d'études scientifiques sur la pornographie depuis 15 ans, voire plus. Et l'article de Daniel Borio en proposera un certain nombre. Alors, elles disent quoi ces études scientifiques à propos de ce lien ? Eh bien, elles disent qu'il n'y a pas de lien direct, j'insiste sur le mot « direct », entre consommation de pornographie et violence sexuelle. Même si certaines formes de pornographie, en particulier celles qui mettent en scène des comportements violents, illégaux, coercitifs, sont préoccupantes, suscitent des inquiétudes et peuvent générer des dérapages en termes de comportement. Mais c'est une partie restreinte de l'industrie pornographique. Tout ce qu'on trouve comme lien, et là je parle toujours d'études scientifiques, c'est des corrélations et non pas de la causalité entre une consommation excessive de pornographie, donc c'est une partie de la population précise, et certains comportements sexuels problématiques. En tout cas, il n'y a rien qui justifie l'amalgame direct fait par le rapport du Sénat. Non, pas du Sénat, le rapport de... du Haut Conseil à l'égalité. Excusez-moi. Il n'y a rien qui justifie cet amalgame direct entre pornographie et violence sexuelle. Et Daniel Borio cite Judith Butler. Alors, c'est qui ? C'est une des plus grandes représentantes du féminisme de ces 50 dernières années. Elle a écrit des livres fondamentaux. Et j'ouvre les guillemets et je vais citer Judith Butler. « L'idée que la pornographie entretient un rapport causal avec le comportement n'a jamais été établie. Or, soutenir une pareille thèse engagerait le féminisme dans une sorte de behaviorisme, comportementalisme, comme si les hommes étaient des chiens de Pavlov, qui, s'ils regardent un film porno, entreprennent aussitôt de l'imiter. C'est une conception simpliste des fantasmes et je m'inquiète de voir le féminisme entreprendre de réguler l'univers des fantasmes. » Ferme les guillemets. On voit que c'est un débat à l'intérieur du camp féministe entre différentes conceptions qui sont parfois très antagonistes. Si on va du point de vue du droit, il faut savoir que le Conseil d'État, dans un arrêt qui date de 1951, a défini que l'exigence de respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public. Et le rapport, il rebondit là-dessus en disant « Et si on appliquait, en suggérant, d'appliquer ce principe aux réalisations d'industries porno ?» Sous-entendu, ça veut dire quoi ? Si ces réalisations ne respectent pas la dignité de la personne humaine, alors c'est un trouble à l'ordre public et il peut y avoir sanction pénale. On voit le raisonnement qu'il y a derrière cette suggestion. Là, ça pose un problème, parce que qui va définir que telle ou telle pratique sexuelle privée est conforme ou pas à la dignité humaine ? Oui, là, on va rentrer dans un domaine qui est un domaine de la vie privée, d'accord ? Entre des personnes qui sont, à la base, mutuellement consentantes, sinon effectivement, on n'est pas dans la légalité.
Ça a déjà été, aux États-Unis, il y a plein de lois ridicules sur la vie privée des gens, et notamment la sexualité. Ça existe dans certains pays.
Alors, restons en Europe, et justement, on va passer un cran, on va passer au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. En 1976, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé un jugement qui dit la chose suivante. Elle dit « La pornographie doit d'abord être considérée comme une manifestation de la liberté d'expression. Toutes les informations ou idées, même celles qui heurtent, qui choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population, relèvent de la liberté d'expression. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. » Donc là, on voit déjà le garde-fou de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit à l'avance la vie privée, c'est la vie privée. On ne doit pas aller sur ce terrain de légiférer des pratiques privées. Daniel Borio fait d'ailleurs remarquer dans son article que parmi les pays qui répriment le plus sévèrement la pornographie, on trouve, devinez qui ? L'Afghanistan, l'Iran, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite. Donc pas besoin de faire un dessin, ce n'est pas les pays les plus exemplaires en matière de défense des droits des femmes. Ouais. Conclusion de cette petite réflexion de l'analyse de ce rapport. Derrière la nécessité absolue de condamner les pratiques illégales, parfois terribles, de l'industrie pornographique, ça c'est incontestable, il y a une nécessité d'avancer dans ce domaine. Mmh. Et heureusement, ces condamnations se multiplient depuis quelques années au niveau international, pas simplement en France. Eh bien, ce rapport semble vouloir aller sur un terrain philosophico-politique, si je puis dire. C'est-à-dire celui de l'interdiction de principe de cette industrie. Et avec une alliance assez étonnante entre, d'un côté, des positionnements conservateurs classiques, contre la pornographie, c'est pas bien, et certains courants féministes durs. Ouais. Et par exemple, le rapport reprend, cite une américaine, une féministe très célèbre qui est décédée en 2005, Andrea Dworkin, qui déclarait par exemple, j'ouvre les guillemets, « La pénétration demeure le moyen physiologique par lequel la femme est rendue inférieure. » Et donc, elle appelait les hommes à renoncer au pénis. On voit que c'est des courants très très durs du féminisme. Ouais. Donc, je vais laisser les auditeurs trancher ce débat comme ils l'entendent, c'est le cas de le dire. Ouais. Pour ma part, je reste toujours aussi sourcilleux quand il s'agit des questions de liberté d'expression. Aussi, je me permettrai de conclure à l'unisson de Daniel Borio, derrière l'invocation de la dignité humaine, on assiste avec ce rapport à l'étonnant retour d'une certaine morale sexuelle qu'il s'agirait d'imposer aux citoyens. Donc, non au nouveau censeur. Bon. J'en ai terminé.
Merci beaucoup Patrick. Je ne pensais pas ce matin en me levant que la pornographie pouvait soulever des questions judiciaires, philosophiques,
tout à fait.
Sociales.
Tout à fait.
C'était très intéressant. Merci beaucoup.
La Méridienne.